Nous arrivons aujourd'hui aux dernières années de Montesquieu. Monique Brue-Montcassin revient sur la disparition de celui qui a profondément marqué la pensée moderne. Bonjour Monique.
Bonjour.
Alors, on vous écoute.
En août 1754, la mort de son petit frère abbé, Joseph, le plonge vraiment dans un grand chagrin. La cataracte que ses amis le suppliaient de faire opérer diminue tellement sa vue qu'il dicte ses lettres et l'empêche de lire. Il se décide en plein décembre, encore, à partir une dernière fois à Paris pour faire ses adieux, résilier la location de son logement, régler quelques affaires. Il a prévu de rentrer à Bordeaux dès la fin de l'hiver. 10 jours de voyage par grand froid, son logis difficile à chauffer et une sorte d'épidémie de grippe à Paris le rattrape. Juste après son 66e anniversaire, le 18 janvier, il tousse, puis la fièvre s'installe. Diagnostic, fluxion de poitrine. Son état s'aggravant, tout Paris ne parle que de sa maladie. Louis XV fait prendre ses nouvelles chaque jour par le duc de Nivernais, un proche du baron. Ses deux plus anciennes amies, la duchesse d'Aiguillon et madame Dupré de Saint-Maur, se relaient à son chevet. Mais voilà que le pape ordonne à l'évêque de Paris d'envoyer un confesseur à l'auteur insolent des lettres persanes. Comble de provocation, on lui adresse un moine jésuite irlandais qui veut lui faire renier son roman 34 ans après.
Incroyable.
Ses bonnes amies le chassent elles-mêmes de la chambre. Il se voit mourir, demande à un cousin présent de quérir le curé de sa paroisse pour se comporter en bon chrétien. Il meurt le lendemain, le 10 février 1755. Il était habituel de procéder aux enterrements en fin de journée. En plus, à la nuit tombée en plein hiver, très peu l'accompagnent, jusqu'à l'église Saint-Sulpice. De toutes ces relations, nous savons qu'il n'y a que Diderot qui s'est déplacé, rejoignant ses cousins, un autre ami, et Charles, le fils de sa fille aînée, qui faisait quelques études à Paris. N'ayant pas de caveau de famille dans le cimetière à côté, le curé accepte qu'il soit inhumé en attendant dans la chapelle Sainte-Geneviève de l'église Saint-Sulpice. On ne peut pas dire que son fils Jean-Baptiste se soit précipité. Il ne viendra s'occuper de l'inventaire notarial qu'un bon mois plus tard. Et on ne sait pas si le cercueil est resté dans l'église ou s'il a fait ériger un tombeau. Toujours est-il que le cimetière, devenu trop exigu, est reconfiguré dans les années suivantes et qu'aucun document n'est conservé. Arrive la Révolution 1789. En grande pompe, les membres de l'Assemblée constituante font entrer Voltaire au Panthéon en 91 et 4 ans après, c'est au tour de Rousseau d'y être accueilli sur décision là, des députés de la Convention. On repense alors à Montesquieu. On y avait déjà un peu pensé avant. Car dès 92 et donc plus sérieusement en 96, les députés des assemblées successives demande d'étudier le dossier pour le transférer au Panthéon. Coup de théâtre et grande déception. Ce sont eux qui, après des recherches sérieuses, apprennent que la tombe, église ou cimetière, aucun détail là non plus, a été, comme des centaines d'autres, profanée pendant la période de la Terreur en 93-94. Voilà pourquoi notre grand homme a bel et bien disparu. Ses restes ont été rassemblés, soit dans une fosse commune, soit dans les catacombes parisiennes, comme ce fut le cas après les destructions de tombes de la noblesse lors de ses saccages. Les deux versions ne sont pas tranchées, et ce n'est pas faute de les avoir fouillées, cherchées et référencées.
J'imagine.
À plusieurs reprises, des députés, des personnalités, même le baron Henri, son descendant, ont sollicité des hautes instances afin de faire installer son buste au Panthéon et ou à l'Assemblée nationale. Ce fut toujours un refus poli, mais fort hypocrite. Le dernier en date, j'ai lu, le 30 novembre 1989, rédigé par le Premier ministre Michel Rocard, et pourtant, son nom est cité continuellement pour ses principes, ses pensées, évoquées soir et matin par les journalistes, les politiques de tous bords, les universitaires et j'en passe. Mais il n'a pas droit à une plaque en hommage dans l'église Saint-Sulpice, ni de buste ou de plaque au Panthéon. Alors là, franchement, on continue à se demander bien pourquoi. Heureusement, à la Brède, son nom est partout et un grand monument trône sur la place depuis 1938. À Bordeaux, deux immenses statues sont installées. L'une, place des Quinconces, depuis 1858, face à celle de Montaigne, l'autre au palais de justice, depuis 1821. J'ai découvert récemment qu'à Paris, une rue minuscule porte même son nom, genre impasse, mais qu'une belle statue se trouve dans le petit jardin des quatre colonnes entre l'arrière de l'Assemblée nationale et la résidence de la présidente actuelle. Mais d'accès interdit au public. Cette statue était installée jusqu'en 1939 dans la salle des quatre colonnes, donc dans l'Assemblée, celle qu'on appelle la salle des pas perdus, face à ce petit jardin. Elle a été déplacée pour être remplacée par une allégorie de la République en honneur des morts de 1939. Montesquieu perdure au fil des siècles sans tombeau, à travers ses œuvres universelles, ses principes de sociologie politique, sa philosophie et tous ceux qui continuent de l'évoquer. C'est sa plus belle réussite.
Merci beaucoup Monique, et demain nous verrons effectivement quel est l'héritage intellectuel de Montesquieu. À demain.
Au revoir.